Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié chez Dervy dans une édition de 2012. Le cycle de l'humanité adamique est une vaste étude de Jean Faure, poète et métaphysicien chrétien, consacrée aux doctrines traditionnelles du temps cyclique. Son sous-titre annonce une introduction à la cyclologie traditionnelle et à la fin des temps. Le livre ne traite donc pas de histoire au sens universitaire ou documentaire strict. Il propose une lecture métaphysique de la destinée humaine, nourrie de traditions orientales et occidentales, de symbolismes religieux, de cosmologie, de mythes et de références ésotériques. Faure oppose au schéma moderne du progrès continu et au temps linéaire de la création vers une fin unique, une succession de phases, de déclin, de crises et de recommencements. Son ambition est de relier les événements collectifs à une structure spirituelle plus vaste. Cette synthèse invite moins à vérifier une chronologie positive qu'à examiner les présupposés spirituels de notre manière de concevoir le passé, le présent et la fin du monde. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la cyclologie comme alternative au temps linéaire et au progrès continu. Le point de départ du livre est la cyclologie, soit une conception selon laquelle le temps humain ne se développe pas sur une ligne unique orientée vers un perfectionnement indéfini. Dans cette optique, les civilisations traversent des séquences comparables et les situations fondamentales reviennent sous des formes et des intensités différentes. Faure place cette vision en tension avec les conceptions judéo-chrétiennes les plus courantes de la création, de l'histoire et de la fin des temps, ainsi qu'avec la croyance moderne au progrès cumulatif. Sans contraste est central car il modifie la signification donnée aux crises. Une période de désordre ne représente plus seulement un accident historique, mais peut être interprétée comme un moment caractéristique de la fin de cycle. Le livre ne demande pas seulement si les événements se répètent matériellement. Il cherche plutôt à reconnaître des analogies de structure entre les périodes humaines. Cette démarche confère une importance particulière aux mythes, aux symboles et aux récits traditionnels, considérés comme des modes de connaissance du rythme cosmique et humain. La valeur de cette proposition est surtout interprétative. Elle donne un cadre pour interroger la fascination contemporaine pour la nouveauté et pour relativiser les certitudes liées à une histoire conçue comme ascension. Elle suppose toutefois une adhésion aux prémices métaphysiques de hauteur, qui ne relèvent pas de la démonstration historique ordinaire. Deuxièmement, les quatre âges védiques et le schéma du déclin spirituel, Faure mobilise notamment la division védique du grand cycle en quatre âges. Cette représentation commence par un âge doré, associé à une plus grande proximité entre humain et connaissance spirituelle, puis passe par des phases de dégradation avant de parvenir à un âge de fer, souvent rapproché du Kali Yuga, les appellations traditionnelles âge doré, âge argenté. Âge de bronze et âge de fer servent moins à décrire des périodes archéologiques qu'à exprimer une hiérarchie qualitative des états humains. Le mouvement essentiel est celui de la perte progressive de la connaissance, de harmonie et de unité. Dans cette logique, le développement de moyens matériels ne constitue pas nécessairement un progrès intégral. Il peut apparaître comme une compensation de facultés spirituelles perdues. Cette idée explique la critique du matérialisme et de la domination technique qui traverse la perspective attribuée à Faure. Le recours aux âges védiques élargit aussi le champ du livre au-delà de la seule tradition chrétienne. Il vise à repérer une doctrine commune dans plusieurs héritages, malgré leurs différences de langage et de symboles. Ce rapprochement demeure de nature traditionnaliste et comparative, non scientifique, au sens des études historiques des religions. Il faut donc le lire comme une architecture de sens, où les catégories anciennes permettent de penser la qualité spirituelle du temps, plutôt que comme une périodisation établie par des preuves empiriques. Troisièmement, la fin de cycle comme crise de civilisation et non comme simple prédiction. Le thème de la fin des temps donne au livre sa portée contemporaine, mais il ne se réduit pas à une annonce datée de catastrophe. Dans une perspective cyclique, la clôture d'une âge implique une intensification des désordres avant le renouvellement du cycle. Les sources de présentation évoquent des guerres, des bouleversements ou des cataclysmes comme figure possible de cette transition. Pourtant, la lecture la plus cohérente avec le projet métaphysique du livre consiste à voir ces images comme des signes de rupture dans l'ordre du monde autant que comme des événements possibles. Faure interprète la modernité à travers des phénomènes tels que la perte de repères spirituels, le règne de la quantité, la technocratie et le nivellement culturel. Cette critique ne se limite pas au constat pessimiste. Elle relie le malaise collectif à une conception de homme qui privilégie avoir la puissance et la maîtrise extérieure au détriment de être. Le risque de ce type de littérature est la superstition apocalyptique, lorsque tout événement devient une confirmation immédiate de la fin. Les commentaires autour de l'ouvrage soulignent justement la nécessité de ne pas confondre prophétie et prédiction mécanique. La fin de cycle agit alors comme une grille de discernement spirituel et culturel. elle invite le lecteur à examiner les formes de décadence sans prétendre fournir un calendrier vérifiable de l'avenir. Quatrièmement, la correspondance entre microcosme. Macrocosme et itinéraire initiatique, une dimension distinctive de cette synthèse est le lien établi entre les cycles du cosmos, ceux des sociétés et le chemin intérieur de la personne. La cyclologie de Faure ne concerne pas uniquement le devenir des peuples. Elle repose sur une analogie entre microcosme et macrocosme, selon laquelle les structures du monde trouvent un écho dans la constitution spirituelle de l'humain. Les traditions, mythes et cosmogonies sont dès lors lues comme des cartes de transformation et non comme de simples récits anciens. La préface de Jacques d'Arès présente cet itinéraire comme un passage de avoir vers être, de la dualité vers la non-dualité. Cette orientation permet de comprendre pourquoi la connaissance recherchée dans le livre est qualifiée de traditionnelle. Il ne suffit pas de réunir des données sur les religions ou les civilisations. Il faut apprendre à les rapporter à une réalité spirituelle stable, dont les formes historiques seraient des manifestations partielles. Le caractère initiatique de cette approche donne une fonction pratique au diagnostic de décadence. Le lecteur est invité à ne pas subir le temps collectif comme une fatalité, mais à travailler son rapport à la vérité, au symbole et à unité. Cette proposition reste étrangère aux méthodes critiques qui séparent rigoureusement faits, croyances et interprétations. Elle éclaire néanmoins la cohérence interne de l'ouvrage où histoire universelle et réalisation spirituelle sont inséparables. En dernier lieu, une synthèse traditionnaliste entre symbolisme chrétien et héritage orientaux, le livre se distingue par son effort de synthèse entre plusieurs univers de référence. Jean Faure se définit comme métaphysicien chrétien tout en accordant une place importante aux traditions indiennes, aux doctrines ésotériques, à astrologie et au symbolisme des nombres ainsi que de architecture religieuse. Cette combinaison vise à dégager une unité derrière la diversité des révélations, mythes et systèmes de représentation. Le christianisme ne disparaît donc pas du cadre cyclique, mais il est relu dans une perspective plus large que la seule théologie historique. Faure cherche des correspondances entre eschatologie chrétienne, doctrine des âges et mémoires des civilisations anciennes. Cette ambition explique la densité d'ouvrage, qui dépasse 600 pages dans son édition d'Hervy. Elle explique aussi ses limites. Une synthèse de cette ampleur privilégie les rapprochements et les intuitions structurantes, parfois au prix de distinctions nécessaires entre les contextes religieux, les époques et les niveaux de preuve. Certains lecteurs saluent son érudition et son panorama général, tandis que des évaluations critiques jugent sa démonstration insuffisamment rigoureuse et son style parfois solennel. Ces deux constats peuvent coexister. Le livre possède un intérêt réel comme œuvre de pensée traditionnaliste et comme vaste invitation à comparer les imaginaires du temps. Il ne doit pas être confondu avec une étude académique consensuelle de l'histoire des religions ou des civilisations. En conclusion, le cycle de l'humanité adamique conviendra surtout aux lecteurs déjà intéressés par le traditionalisme, les rapports entre christianisme et ésotérisme, les doctrines des âges du monde et les critiques spirituelles de la modernité. Il peut également intéresser les personnes qui cherchent un contrepoint au récit centré sur le progrès, à condition de maintenir une distance critique entre spéculation métaphysique, symbolisme comparé et savoir historique. Son bénéfice intellectuel principal réside dans le déplacement de perspective qu'il propose. Au lieu de demander seulement ce qui avance dans une civilisation, il demande ce qui se perd, ce qui se répète et quelle qualité spirituelle peut être attribuée au temps vécu. Cette interrogation donne une cohérence inhabituelle au thème de la crise, de la technique, de la mémoire et de la fin des temps. Par rapport aux ouvrages académiques sur les mythes, les religions ou les conceptions du temps, Faure se distingue par une visée unificatrice et engagée. Il ne décrit pas de l'extérieur une collection de traditions, mais tente de les intégrer dans une vision unique de la destinée humaine. Cette force est aussi sa fragilité, car les rapprochements proposés ne suivent pas toujours les exigences de démonstration universitaire. Le lecteur le plus adapté sera donc celui qui souhaite rencontrer une grande synthèse spéculative, dense et explicitement spiritualiste, plutôt qu'une enquête neutre ou une prédiction factuelle de l'avenir. Si vous souhaitez soutenir Jean Faure, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.